merci pour cette dernière communication qui était en plus parfaitement vraiment dans le thème de croyance, parce que là tu as bien montré comment le travail sur la musique, le rythme permettait de mettre en valeur pour l'auditeur des choses qui en théorie devraient les faire réagir. Bon voilà, je sais qu'il est très tard, que tout le monde doit être fatigué, mais j'imagine, enfin je pose la question aux organisateurs, mais le public peut poser quelques questions quand même.
Oui, voilà.
La parole est à la salle.
Moi j'aurais une petite question à propos de l'analyse que tu proposes. Là tu viens de faire une analyse finalement en termes de monodie.
Oui.
Donc la voix indépendante de la structure du motet, est-ce que tu penses que cette voix peut avoir eu une vie et peut faire sens complètement indépendamment de son contexte de motet? Parce qu'on sait que dans le monde il y a pas mal de recompositions comme ça. Il y a des voix de conduit qui sont prises pour faire des motets. Enfin, il y a un ou deux exemples. Est-ce que ça te semble possible vu la...
Je pense que dans tous les cas, les différentes voies de montée peuvent avoir une vie indépendante. Après, est-ce que c'est réellement le cas ou pas sur les exemples précis, je sais pas, je sais même pas comment on peut le savoir. Mais à moins de les retrouver, effectivement.
Il y en a, enfin, il y a
oui,
bien
non, ça je sais. Mais dans ce cas précis, je ne saurais le dire. Là, ce que je voulais montrer, c'est quand même que dans ces montées-là, donc il y en a quelques-uns en latin, il y en a quelques-uns en français. La voix de triple est vraiment très une écriture rythmique très particulière, et plutôt que de dire que c'est une déclamation capricieuse...
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Moi, j'ai plutôt tendance à croire que... Là, il faudrait maintenant faire une analyse de tous les motets qui sont notés comme ça, pour voir si on retrouve quelque chose du serment, de la prédication dans les autres, ou pas. Il me semble que dans certaines de Pierre de la Croix, c'est aussi un peu ça. Mais bon, il faudrait le faire sérieusement. Voilà, là je l'ai analysé toute seule, parce que c'est la seule des trois voix à avoir ce rythme-là, très déclamatoire. Et comme par hasard, dessous, comment dirais-je, ce sont deux voix. La voix de double n'est pas du tout volubile. Hein. La voix de double, c'est un troisième mode. Ça fait presque deux teneurs sur laquelle, comme dans Pierre de la Croix, hein, sur laquelle vient se poser cette espèce de déclamation, et à mon avis, les chanteurs ne doivent pas nécessairement, moi je ne chercherai pas à le faire strictement mesurer. Je me demande si cette notation-là, ce n'est pas plutôt un essai, une tentative de porter par écrit musicalement dans le cadre d'un chant mesuré, forcément, puisque c'est de la polyphonie à trois voix, quelque chose qui en réalité est beaucoup plus libre.
Du coup, ça pose problème avec les autres voix, parce qu'il faut quand même que ce soit carré, j'imagine.
Oui, mais sur chaque perfection, je pense. Tu vois, je ne sais pas ce qu'en pense Else.
Ça va être très dur d'articuler les deux logiques.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça. Il faut se retrouver sur chaque perfection, bien sûr. Mais dans la perfection, être strictement solfégique, ça me semble pas à propos. Enfin,
très bizarre à l'écoute, on avait fait des essais.
Le fait est, ça pose problème aux interprètes, parce qu'ils ne sont pas enregistrés, la plupart de ces montées-là.
Ça pose un problème aux interprètes, parce que la plupart des gens n'ont pas l'habitude de faire ce type de déclamation en chantant. Donc il faut une certaine aptitude de la parole, quand même de la prononciation, qui apparemment n'est pas donnée à tout le monde. Et je sais bien quand on a fait, mais c'est une réalité.
Il faut aussi que le chanteur, et l'humilité, c'est pas péjoratif ce que je dis là, c'est le mot qui me vient, et l'humilité pour faire fi du lyrisme. Voilà, il n'y a aucun lyrisme là-dedans.
Il ne faut pas penser à chanter, à donner de la voix. Il faut penser à donner du texte, à donner un discours. Et à ce moment-là, je pense que ça devient beaucoup plus évident. Et pour l'avoir essayé dans notre ensemble avec plusieurs distributions différentes, avec certains ça marche très bien, avec d'autres ça ne marche pas du tout, et avec d'autres ça marche moyennement. Donc il y a une façon de faire qui convient à l'un et pas à l'autre. Mais c'est tout à fait faisable. Moi, je me régale sur cette voix-là. C'est pas moi qui l'ai chantée tout à l'heure, mais c'est une des voix que j'adore, que je préfère dans ce répertoire-là.
Enfin bon, voilà, j'aurais aimé avoir votre avis sur mon analyse. Est-ce que ça vous semble plausible ou...
Sur l'ambitus, je crois qu'il ne faut pas se poser d'autres questions. Que ce soit Pascal Vaubien ou Bagnard sont partis. Mais probablement, l'ambitus du latin, peut-être qu'on le prononce. commençait à parler en Ile-France était calé sur le français. Donc on peut y aller tranquillement de ce point de vue-là.
Ça c'est bien.
Faut faire une fois.
Oui. C'est pas compliqué quand même.
On peut faire une grande épreuve, mais je pense que la façon dont on prononce le latin en Italie aujourd'hui est strictement équivalente à la façon dont on prononce l'italien pour l'anglais, si on prononce en italien. Et voilà.
Et du coup, je me pose aussi la question du sens de ce mot, c'est de la parodie, c'est la parodie du sermon, non?
C'est vrai que ça ressemble un peu au Carmina Burana,
ça,
etc. Il y a beaucoup
d'ironie dans le Carmina Burana. Ce n'est pas vraiment surprenant, disons. C'est un texte de. Une littérature parodique sous des formes un peu différentes. On peut retrouver des dizaines de fois au XIIIe siècle, dans les décennies qui précèdent. Moi, j'ai des rythmes ou des proses. Ou des proses rythmées sous l'italienne qui sont bourrées de tous ces thèmes-là. Donc, on n'est pas dans une chose. Fauvel en tant que tel, c'est très original comme construction globale, ça oui. Mais ce modèle-là, il est beau, il est bien fait, il est très parodique, il est la continuation de l'épisode qui a montré Carmina Burana en mettant ce ton-là, effectivement. Ouais. On peut donner des pièces de comparaison pour accélérer le travail. Les briques dont il est constitué ne sont pas des surprises. Elles fonctionnent très bien dans la propagande anti-ecclésiale depuis 120 ans, 130 ans, à ce moment-là.
Moi, je n'ai pas très bien compris le lien avec l'office de la couronne d'épines. Il y avait fait allusion à mon...
Oui, mais ça, il faut que je cherche encore. Hein. Là, j'ai cherché, mais... un motet, comment dirais-je, la voix de double, la voix de triple dans un motet viennent donner différents niveaux de sens à la teneur. Le mot-clé, c'est la teneur. C'est lui qui explique tout. Dans un motet. Ensuite, c'est un jeu de sens dans chacune des voix et dans le jeu entre les trois voix. Donc, si on veut réellement bien comprendre le sens d'un motet, quelque part, il y a la clé dans la teneur. Voilà. Donc, quand elle est issue d'un texte liturgique, ce qui est à cette époque-là le cas dans 90% des motets, il faut effectivement retrouver l'origine, enfin la pièce liturgique dans laquelle le petit mélisme a été pris, a été extirpé. Là, pour ce motet-là, c'est pas. Enfin, les musicologues, j'ai lu à peu près tout sur Fauvel, enfin, sur. C'est pas. Comment dirais-je ? On ne sait pas. Autant tous les motets du manuscrit de Montpellier, on sait de quelle pièce liturgique sont pris les teneurs, mais là, non. Et mes recherches m'ont montré jusqu'à présent, mais c'est peut-être pas exhaustif, hein, qu'il y a deux chants liturgiques qui contiennent ce mot ruina. C'est une antienne à Saint-Michel, et en répond de l'office de la couronne des pieds. Voilà. Il semble que la couronne des pieds ne ferait un peu plus sens que Saint-Michel, mais j'ai pas trouvé. L'office de la couronne des pieds, on le trouve dans plusieurs manuscrits du diocèse de Sens, hein, Sens, Paris, etc. Mais cette pièce-là n'y est pas dans ces versions-là de l'office.
Mais là, j'ai peut-être décroché un instant, mais pour qu'il y ait un mot spécifique important dans le discours ou deux, tel que Ruina, qui ne soit pas trouvable dans la liturgie, c'est pas gravissime, tout de même, ils peuvent l'avoir construit en prenant d'autres sources. Justement, ces poèmes satiriques qui sont très
peut-être,
proches par le...
Peut-être.
Entre autres, hein, qui sont très proches par le thème, ils avaient des occasions d'en trouver à l'appel, je pense.
Peut-être.
Justement, un petit sondage dans les poèmes des Carmina Burana pour commencer la comparaison, voir d'autres choses.
Mais je pense qu'il était quand même important pour eux que ce mot soit issu de la liturgie. Enfin, encore au début du XIVe, après ça se perd comme
bon, habitude. Il y a bien des motets sur des chansons.
Il y a des motets sur des chansons. Mais
je chercherai, effectivement.
Le fait de... j'avais entendu une intervention de Anna Zuraskaya sur la teneur magistère de Hugo Kumprin. De Fauvel, où elle avait trouvé que, en fait, il avait recomposé une sorte de liturgie fictive en mariant deux passages où il y avait magistère dans la phrase. Et c'était le mot qui l'intéressait.
Ah ben là, c'est pareil, puisqu'il voilà. Fait.
Donc, c'est plutôt une référence recomposée. Mais je pense que c'est important que ça vienne quand même de la liturgie, d'un point de vue symbolique.
Oui, mais ils ne peuvent pas faire tout sortir de la liturgie. Il y a un moment, même si c'est un océan, ça peut se bloquer. S'ils voulaient vraiment utiliser ce concept-là et qu'ils ne le pourraient pas. Enfin bon, c'est bien rigoureux, je vais continuer à chercher moi, ça dépend du côté liturgique. Du côté de la subtilion, les tendances à l'inadéquation entre la mesure du verbe et la musique, le texte que vous avez, la construction que vous nous avez montrée est dans la moyenne de ce qu'on fait à cette époque-là en la subtilion, ou c'est une sorte de tendance extrême. Est-ce que c'est homogène, ces phénomènes de dissociation extrême, ou est-ce qu'il y a à l'époque même, dans différents courants d'art sottilien, des variations entre des tentatives de donner un tout petit peu plus de régularité texte-musique, ou des choses qui seraient moins? Vous avez pu faire des comparaisons
Alors, je ne suis pas encore allée faire un sondage très étendu, mais si on compare déjà les autres pièces françaises des autres communautés, là, en fait, et pour le latin d'ailleurs c'est pareil, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Enfin, plutôt si, ils se ressemblent, mais si on regarde de près, on s'aperçoit que les pièces latines qui sont construites sur un schéma iambique, régulier, hein, en fait, les rimes ne sont pas placées au même endroit, ça dessine des répartitions strophiques différentes, et pour le français, c'est pareil. Autrement dit, il y a toujours quand même, plus ou moins, dans les pièces, en tout cas là, dans le manuscrit, une sorte de trompe-l'œil. Et c'est vrai que c'est valable un peu sur... C'est l'esthétique un peu, je trouve, des pièces françaises dans ce recueil. C'est une sorte de facilité d'entrer dans la matière et de se repérer dans les formes, les thèmes, etc. Et en fait, on voit que chaque fois, effectivement, le diable est dans le verger, ou Lupus in fabula, parce que, non, ça colle pas tout à fait, il y a des décalages, des contrastes, des discordances, mais... Ce n'est pas flagrant, il y a une sorte de surface très, très lisse, et du coup, bon, c'est ce qui en fait la qualité en même temps, mais ça exige vraiment de mettre les choses à plat, et entre autres de passer par le travail de traduction, pour ce que je fais là, pour s'apercevoir que, au-delà de la topique et des coïncidences, des symétries, des jeux réguliers sur les nombres, il y a autre chose. Et souvent, il y a aussi un effet évidemment d'ironie ou de distanciation avec la matière. Mais, et là, je trouve que c'est une caractéristique de ce manuscrit, enfin, de cette œuvre, de ce recueil, parce que il me semble qu'ailleurs, en fait, pas sur le plan musical, mais là, je ne suis pas spécialiste, hein, il me semble qu'ailleurs, on ne joue pas des mêmes ressorts et on n'applique pas tout à fait les choses de la même manière. C'est subtilior, ça va être subtilior dans le discours poétique différemment, par un jeu sur les figures, par des recours à des personnages, des emprunts mythologiques, où vraiment l'obscurité ou la subtilité est mise en avant. Tandis que là, elle n'est pas mise en avant. C'est un peu... Alors il y a des équivoques, il y a des jeux, il y a des pièces qui sont basées sur des équivoques, mais qui du coup, pour certains en tout cas, dans les ballades, vu un certain nombre, camoufle ou estompe ce côté artificiel, ce cliquetis verbal, hein, comme le dit François Cornillat, en mettant une mélodie par-dessus qui va être extrêmement lisse, extrêmement unifiante, très, très bien calibrée. La balade 10 qu'on avait travaillé était dans ce sens-là. Ce qui fait que quand on chante comme ça le poème, bon, ça glisse tout seul, ça se fait tout seul. Et quand on extrait le poème et qu'on essaye de le mettre en forme, de comprendre ce qu'il dit, là c'est un petit peu différent. Enfin, c'est une balade, il n'y a pas le jeu que procure ici la polyphonie, qui est autre chose. Et la question que je me pose de manière générale, c'est...
Polyphonie textuelle. La polyphonie textuelle.
Oui, la polyphonie textuelle, oui, oui. Oui, oui. Textualité. C'est la question du sens aléatoire ou pas, et je pense en fait, je me demande, l'hypothèse que j'ai, c'est qu'il y a peut-être un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a des effets qui sont tellement flagrants à certains moments que ça ne peut être qu'intentionnel, type la fleur qui apparaît, ou les fleurs qui apparaissent qui font surgir par une quinte comme ça en tant qu'elle, donc voilà, ça ne peut pas être un effet de hasard, mais en même temps il y a d'autres jeux purement sonores, et du coup,
aussi des effets d'une prosodie nouvelle. Enfin, on entend différemment la langue et le poème quand on l'extrait comme ça, refaçonné par le rythme musical. Et bon, voilà, on est un peu dans l'indécision, jusqu'où on n'a pas d'écrit théorique ou de témoignage qui puisse dire on l'entendait ou on le lisait comme ça, ou même comment est-ce qu'on l'interprétait, hein, dans quel cadre. Hein, mais je pense qu'on a une entrée dans une autre esthétique, et donc une autre écoute du poème. Enfin, voilà, bon, je suis au début d'un travail, je n'ai pas encore théorisé tout ça, et peut-être qu'on y reviendra pas de toute manière, mais bon, c'est en tout cas un art qui, dans ce que ce manuscrit en donne à voir, c'est assez unique. Enfin, on a l'impression qu'on a là quelque chose qui, dans la poésie premier tiers du XVe siècle, marque une place particulière, fait entendre une voix particulière, et que, voilà, mon propos, c'est de la faire entendre tout différemment. Mais c'est compliqué.
D'autres questions?
Sur le contexte des performances possibles, de l'été,
vaste question.
Voilà. Prochain colloque.
On en sait plus pour les 15e, 16e siècles. Alors oui, avant, il n'y a pas tellement de témoignages. Enfin, certaines disent, comme Guillaume Durand, ou d'autres, dans la bulle de Jean 22 aussi, qu'il faut arrêter de le chanter à la messe. C'est quand on y chante.
Il ne prononce pas de mots motets. Il parle du style de musique, mais...
Guillaume Durand, c'est...
Guillaume Durand, mais Jean 22, il ne prononce pas de mots. Il ne cite pas le genre. Non.
Il me semble qu'il parle de mots de français. Guillaume Durand aussi, mais bon... Après, il y a aussi une pratique domestique.
Hein. Mais il fallait quand même être initié au texte, déjà, pour comprendre cette attaque contre le clergé. C'est inaudible, tu vois, c'est très beau, mais
c'est toujours inaudible.
Alors, tu ne peux pas comprendre, insister sur ces discordances permanentes. Alors, à la fin, évidemment, on a l'impression que tout rentre dans l'ordre, mais on n'arrive pas à suivre un texte. Donc,
à force d'en entendre, mais ça va faire 20 ans, non, allez, 15 ans, on va dire, que je fais ça.
Oui.
Je ne parle pas couramment le latin, mais je comprends.
Voilà. À force, oui.
Et à force d'en faire à deux voix à texte, trois voix à texte, on commence à, en écoutant les choses, à saisir certaines choses. Alors j'imagine des gens qui ont grandi là-dedans, qui ne font que ça, qui ont eu un enseignement là-dedans, je pense qu'il y a une vraie possibilité de comprendre.
Oui, mais c'est pas très économique, si vous voulez, par rapport à un sermon. En fait, vous tenez un sermon pour dénoncer
un sermon,
pour chanter à la fin des repas, mais vraiment dans le cadre domestique du palais. Ils mangent même à la table avec les hôtes. Et
bon, ça, tout le côté parodie satirique, c'est très, très important, parce que ce n'est pas seulement une fonction polémique.
Après, fallait-il que ce soit compris par tout le monde? Parce que le plaisir est aussi de parler de certaines choses presque en cachette, et non seulement dans mon propre discours, mais aussi dans le discours de l'autre, et puis le discours qui, avec les mots qui vont coïncider à certains moments, qui vont faire en sorte qu'il y a encore d'autres clins d'œil qui vont se distiller de tout cela. Alors quand on fait des critiques sur le Seigneur devant lequel on est en train de chanter, peut-être qu'il valait mieux pas qu'on prenne de trop, quoi. Je ne sais pas, hein, ça c'est une pure hypothèse, mais quand on superpose comme ça des textes qui se mettent en lien entre eux, peut-être que tout ne devait pas être compris par tout le monde.
Tout à fait, puis il y a plusieurs niveaux de sens. On voit bien à propos du Charivari.
Oui.
C'est une dénonciation des mœurs à la cour, évidemment, ça ne peut pas être dit directement.
Oui, voilà, on emballe les choses dans un joli paquet, on comprend celui qui peut comprendre.
Donc, je crois qu'on va en rester là parce que...